explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que je peux regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
Où trouve-t-on le plus de glace sur Terre en dehors des régions polaires ? Ce serait trop facile. En Himalaya, bien sûr. Cette chaîne de montagnes compte 50 fois plus de glaciers que les Alpes. Et ces glaciers jouent un rôle important pour les populations locales. Ils constituent aussi de bons indicateurs pour suivre l'évolution du climat de la planète. Pourtant, les glaciers himalayens sont encore mal connus. Il faut dire que le toit du monde ne se laisse pas facilement approcher. Dans ces zones reculées, situées en haute altitude, tout doit être transporté à dos d'homme ou de yak. Avec les températures glaciales et le manque d'oxygène, installer des stations météo ou effectuer des prélèvements après des heures d'ascension est un véritable tour de force. L'alpiniste et glaciologue Patrick Vagnon relève régulièrement ce défi scientifique et sportif. Depuis le début des années 2000, il mène des expéditions sur différents glaciers de l'Himalaya. Comment se déroulent ces expéditions scientifiques en haute altitude et que révèle-t-elle de l'évolution de ces glaciers plus généralement de celle du climat de la planète? Nous allons le savoir, Patrick Vagnon nous emmène bivouaquer avec lui sur les plus hauts glaciers du monde.
Les gars, êtes-vous prêts à connaître l'aventure?
Oui, chef!
Le danger?
Oui, chef!
La mort!
Tu peux répéter la question?
On saute!
Sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Patrick Vagnon.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble, rattaché à l'IRD. Vous êtes également alpiniste et guide de haute montagne et vous allez donc nous emmener à la découverte des glaciers himalayens. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne, elle a été préparée par Sophie Vaux.
Aujourd'hui il fait extrêmement beau, on voit bien au fond là, juste... On a récupéré nos piolets, tout ça, qui sont au pied du couloir. On vient d'en dessous, là. On a posé notre camp là-bas, derrière. On est vers 5400 mètres. On va remonter ce couloir. Ok, c'est là. Hop. Et le haut du pilier, il est 2000 mètres au-dessus de nous. Première fois qu'on a remonté ce couloir, on était complètement vert, complètement flippé. Ça fait 2 semaines et demie maintenant. Il est 7h15 du mat. Hop. Et on s'enquille dans ce couloir là. On est parti pour aller essayer le sommet de la Guiri là. Arrivé le 11, peut-être au sommet ou le 12. Ça dépend.
La voix de Yannick Graziani en pleine ascension du mont Dholagiri avec vous, Patrick Vagnon. Nous étions donc au Népal. Le Dholagiri est le 7e plus haut sommet du monde dans la chaîne de l'Himalaya. Ça, c'est ce que vous faites pour le plaisir en tant qu'alpiniste, c'est ça, Patrick Vagnon ?
Oui, c'est ça. C'est une passion.
Oui, alors on sent le soufflet court, hein, les conditions sont très rudes, ça fait déjà 15 jours que vous êtes en montagne. C'est très éprouvant hein, ce genre d'ascension.
Oui, c'est éprouvant, surtout parce que c'est en haute altitude, donc on manque d'oxygène, donc il faut adapter le corps à l'altitude pour produire des globules rouges et pouvoir évoluer dans ce monde.
Oui, l'idée c'est d'aller dans des endroits parfois inexplorés, au moins des parois vierges sur lesquelles personne, aucun alpiniste n'est allé avant vous.
Oui, c'est un peu l'idée. Surtout, c'est faire des ascensions, d'exploration. Ce qui m'intéresse vraiment dans ce milieu de la haute montagne, c'est explorer des nouveaux horizons, pas forcément vierges. Par exemple, au Dholagiri, on a répété une voie qui avait déjà été réalisée. Mais cette fois, on l'a fait sans apport de porteur, en technique légère, en respectant au maximum l'environnement.
Alors, pas étonnant avec cette passion pour la montagne, après avoir fait des études de géologie, que vous ayez eu envie de devenir glaciologue. C'est pour vous le métier idéal ?
Oui, c'est un métier intéressant puisque ça allie ma passion et puis aussi cette curiosité d'apprendre de nouveau, mieux connaître ce milieu de la haute montagne et des glaciers. Ouais. Pour moi, c'est un milieu fascinant et à la fois sportivement ou scientifiquement, ça m'intéresse toujours.
Ouais. Alors, vous avez fait des glaciers himalayens votre spécialité. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser précisément à ces glaciers ?
Ouais, je pense que c'est des glaciers qui étaient très peu connus. J'ai commencé en 2002 à travailler d'abord en Inde, au nord de l'Inde, et puis ensuite en 2007 au Népal. Et il y a 15 ans, on connaissait extrêmement peu de choses sur ces glaciers, alors qu'ils recouvrent la plus grande surface englacée sur Terre, hormis le Groenland et l'Antarctique. Donc, et l'intérêt aussi, c'est qu'ils sont situés proches de zones densément peuplées, comme l'Inde, la Chine, et qui sont intéressants et importants pour la ressource en eau, pour l'hydroélectricité, donc ils sont importants pour les populations.
Oui, c'est important de la situer, cette chaîne de l'Himalaya. On a l'Inde en dessous, au-dessus on a la Chine, et puis un peu à califourchon, dessus, il y a le Népal, ce pays que vous aimez, dans lequel vous avez vécu pendant 4 ans.
Oui, c'est ça. J'ai vécu de 2012 à 2016 au Népal, notamment pour travailler auprès des partenaires, puisque quand on réalise des mesures scientifiques en Himalaya, on le fait toujours en partenariat avec des équipes universitaires ou des équipes de scientifiques locaux. Mmh. Donc avec des Indiens, de l'université de Delhi d'abord, pour tout ce que mon travail qui concernait l'Inde, et puis maintenant avec l'université de Katmandou. Donc c'était l'occasion de travailler vraiment sur place et d'échanger, de former des jeunes aussi, qui ensuite reprendront le flambeau pour continuer à mesurer ces glaciers.
Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? Qu'est-ce que vous essayez de savoir sur ces glaciers ? Vous dites qu'on a très peu de mesures. Je crois que les premières données datent de 1975. Pourquoi elles sont si importantes et qu'est-ce qu'on mesure ?
Alors, on choisit des glaciers de référence et on fait des mesures sur le terrain pour comprendre comment certains glaciers évoluent. Et ensuite, on essaye d'extrapoler ces mesures locales à l'ensemble de la chaîne. Donc, l'idée, c'est d'aller sur un glacier, de répéter des mesures chaque année ou chaque saison. Donc, ces mesures, elles sont de deux types. Il y a des mesures glaciologiques, donc pour comprendre et mesurer la variation de volume d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, du glacier en question. Et en parallèle, on installe des stations météo pour comprendre le lien avec la météorologie, donc le climat à long terme.
Ouais. Puis il y a aussi cette idée que ces glaciers alimentent. Alors, il y a des grands fleuves autour de l'Himalaya qui prennent leur source dans cette chaîne de montagnes. Il y a le Gange, l'Indus ou encore le Brahmapoutre que l'on connaît bien au Bangladesh. Tous ces fleuves sont en partie alimentés par ces glaciers.
Oui, c'est assez rigolo parce que ces trois fleuves que vous mentionnez, ils prennent leur source relativement proches les uns des autres, donc au nord-ouest du Népal. Il y en a un qui prend sa source au mont Kailash, qui est une montagne extrêmement sacrée pour les peuples bouddhistes et qui va vers le Bangladesh, c'est le Brahmapoutre. Il y en a un autre qui prend sa source juste de l'autre côté de la frontière, vers la Nanda Devi, donc en Inde, c'est le Gange, qui lui continue plus au sud et ensuite rejoint aussi Calcutta, plus à l'est. Et puis le dernier, il prend sa source non loin de là, c'est l'Indus, et il traverse ensuite tout le Pakistan pour rejoindre Karachi. Donc c'est assez rigolo qu'ils prennent leur source tous les trois au même endroit. Ils longent la grande chaîne de l'Himalaya pour se jeter dans des mers différentes.
Ouais. Quelle différence y a-t-il entre ces glaciers himalayens qu'on connaît peu et les glaciers des Alpes qu'on connaît beaucoup mieux pour le coup ?
Oui, c'est sûr qu'on a des chroniques de mesures dans les Alpes qui remontent à un siècle presque pour les plus anciennes. Donc, alors qu'en Himalaya, c'est une quinzaine ou une vingtaine d'années maximum. Ouais. Donc, la différence fondamentale, c'est que déjà, ils sont situés plus haut et puis qu'ils sont alimentés par des régimes de précipitations qui sont différents de ceux des Alpes. Par exemple, si on se situe au Népal, donc c'est la période de la mousson qui alimente les glaciers en neige. Et cette période de la mousson, c'est aussi l'été là-bas. Donc en fait, pendant cette période entre juin et septembre, c'est là où tout se passe. C'est là où les glaciers se régénèrent en altitude, mais c'est là où ils fondent. Le reste de l'année, c'est sec. Donc les glaciers perdent quasiment pas de volume, quasiment pas de masse. Donc en cela, ils sont complètement différents des glaciers alpins qui, eux, se régénèrent plus pendant l'hiver où la neige tombe et fondent pendant l'été. Par contre, dans la partie nord-ouest de la chaîne Himalaya, donc vers le Karakoram, on a une situation qui est un petit peu plus similaire à ce qu'on observe dans les Alpes, puisqu'il y a des grandes précipitations, des grandes dépressions qui arrivent de l'ouest et qui amènent aussi des précipitations pendant l'hiver. Donc on a un régime un petit peu intermédiaire.
Oui, c'est ça. On se rend compte que cette chaîne est tellement grande, exposée un peu à des climats différents, donc ça ne se passe pas partout pareil, d'où l'intérêt d'aller voir aux différents endroits. Le problème, c'est que pour y aller, contrairement aux Alpes, là où il faut faire une expédition de 4 jours pour aller faire des mesures, Là-bas, alors on n'y va pas en hélico, c'est en altitude, donc il faut s'acclimater. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire en 4 jours dans les Alpes, c'est minimum 15 jours dans l'Himalaya.
Oui, c'est à peu près ça. Après, il faut compter tout un temps aussi d'acclimatation. Et pour rejoindre ces glaciers, par exemple, on travaille sur un glacier depuis une dizaine d'années au Népal qui s'appelle le Merapik, qui est situé entre 5000 mètres pour sa partie la plus basse, le fond du glacier, et 6005, la partie la plus haute. Donc on met 5 jours pour rejoindre ce glacier et notamment on doit s'arrêter à certains endroits pour s'adapter, laisser suffisamment de temps au corps pour s'adapter. Donc ça prend du temps. Ensuite, les mesures elles-mêmes sur le glacier, finalement, ce n'est pas un rapport de 4 à 15, comme vous le dites, par rapport aux Alpes. Mais c'est quand même très long, puisqu'on n'utilise pas l'hélicoptère, alors que l'usage de l'hélicoptère, c'est systématiquement répandu dans les Alpes, puisque c'est moins coûteux, c'est plus facile d'utilisation.
Alors, il y a le risque aussi d'avalanche, parfois, dans ces montagnes. Risque de vidange des lacs en altitude aussi. Alors, que sont ces lacs et pourquoi il y a ce risque de vidange subite ?
Donc, dans la partie sud-ouest de la chaîne, entre le Népal, le Bhoutan, les glaciers reculent assez rapidement, perdent du volume et de la masse. Donc, le front, progressivement, se retire en altitude. Et ils ont laissé, ces glaciers, des cordons de débris qu'on appelle des moraines, qui servent de barrage. Donc, en fait, quand le front recule en altitude, ça libère une espèce de dépression qui est rapidement comblée par l'eau de fonte. Et donc, ça forme des lacs qui sont magnifiques, qui peuvent être extrêmement grands. Donc, c'est des volumes d'eau qui sont extrêmement importants, qui sont retenus par des matériaux comme de moraines qui sont peu consolidés. Donc, il suffit d'une chute de glace ou d'un glissement de terrain dans le lac qui peut provoquer une vague. Et cette vague peut submerger la moraine et d'un coup l'inciser en quelques heures. Et du coup, entraîner une vidange d'une grosse partie du volume qui est emprisonné, du volume d'eau.
Ouais, c'est ce qui s'est produit notamment en 1998 près du village Lukla, au Népal, justement. Un événement sur lequel vous possédiez peu d'informations, juste une photo du début de la vidange de ce lac. Alors, pour en savoir plus, votre équipe a interrogé les témoins, comme ce Sherpa népalais qui vous raconte ce qu'il a vu.
Ce matin-là, on a entendu un grand bruit, comme un grondement. On a regardé par là et on a vu l'eau arriver de là-haut. J'ai appelé mon frère et je lui ai dit « Bruno, viens ». On a vu beaucoup de glace tomber. Après le glissement de terrain, on est venu voir ici et on a vu de gros blocs de glace.
Ça semble confirmer qu'à l'origine, c'est une chute de sérac qui a provoqué la vidange du lac. Et qu'ensuite, c'est une vague qui a submergé la moraine.
Un extrait du documentaire Planète Glace. On entend à la fin les conclusions du glaciologue Christian Vincent. Il parle de ces moraines, de ces séracs. On arrive à bien reconstituer l'histoire ?
Oui, on arrive à reconstituer assez vite, sur place, rien qu'en observant ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on voit vraiment bien l'ancienne moraine qui a été incisée d'une cinquantaine de mètres. On voit l'ancien volume, le niveau du lac historique et puis le niveau actuel. On voit qu'il y a à peu près 50 mètres de différence de niveau. Donc on évalue assez facilement ce qu'il a pu se passer. Ce qu'on évalue difficilement, c'est la vitesse à laquelle ça se produit.
Ouais.
Je pensais que c'était quelques heures. En fait, ça a duré 20 heures au total. Donc il y a effectivement eu une chute de sérac, donc de la glace qui est tombée dans le lac, qui a provoqué une vague, qui a submergé la moraine, et en 20 heures, il y a eu environ 50 mètres d'incisée et une grosse partie du volume qui s'est donc déversée dans la vallée.
Ouais. Alors on verra un peu plus tard dans l'émission que vous avez vous-même vécu un séisme, précisément à un moment où vous passiez au-dessus d'un lac en altitude. Ces expéditions comportent certains risques, mais elles sont indispensables pour comprendre comment évoluent les glaciers du toit du monde, puis prévoir leur avenir. Vous allez nous l'expliquer dans la suite de cette émission. Le glaciologue Patrick Vagnon nous emmène bivouaquer dans l'Himalaya cet après-midi sur France Inter.
I'm
C'était le groupe londonien Warm Dusher qui chantait Standing on the Corner. Et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Elsa Béranger.
Donc demain, l'objectif, c'est d'aller installer une station météo à gauche du sommet central. On voit bien le sommet central, ça fait un espèce de mamelon. Donc l'idée, c'est de partir à 4h du matin depuis le camp de base avec deux Sherpas qui vont porter un petit peu de matériel. On va nous aussi porter du matériel. On a plusieurs choses à faire là-haut. Et puis ça va représenter 5-6 heures de travail à 3 ou 4. Donc le challenge, c'est d'avoir du beau temps et de réaliser tout ça dans la journée, puisque sinon on va être obligé de remonter. Et il y a plus de 1000 mètres de dénivelé pour arriver jusque là-haut avec quand même des charges.
Bon, j'en ai marre. Moi. Ah ouais, je pense que aujourd'hui ça aurait dû être une journée de repos. Pour moi, ça aurait été bien comme ça. Je suis pas remis d'hier là. Ce qu'on fait, c'est un peu surhumain. Et puis, dans l'équipe, on a un surhomme, mais c'est tout quoi. Donc, on n'arrive pas à suivre le surhomme. Mais bon, heureusement qu'il est là. Hein. Sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Hein. Oh, je l'ai vu, il est parti avec le carottier là. Il en avait plein les mains comme ça.
Un nouvel extrait du film Planète Glace avec dans le rôle du glaciologue épuisé Christian Vincent. Et le surhomme de l'équipe dont il parle, c'est vous, Patrick Vagnon, glaciologue rattaché à l'IRD. Vous étiez sur l'un des glaciers que vous suivez en Himalaya. Je crois que ça fait 10 ans que vous suivez le Mera, près de 6000 mètres d'altitude, l'endroit où vous vous trouvez à ce moment-là. Et le reste de l'équipe a l'air d'avoir beaucoup de mal à vous suivre, hein, quand même, Patrick Vagnon.
Non, mais j'aime pas cette appellation de surhomme. Mais oui, effectivement, faut être entraîné. Et même Christian est très entraîné. Et très souvent, je suis entouré de scientifiques qui sont extrêmement compétents. Et Christian l'est aussi. Donc, il était fatigué ce jour-là. Et on est tous à tour de rôle fatigués. C'est normal.
Ouais, alors, reste quand même que arrivé là-haut, tout le monde est rincé. Et c'est là qu'il faut commencer à travailler. C'est-à-dire que l'alpiniste qui fait ça pour son plaisir, pour explorer, une fois qu'il est en haut, il a le droit de redescendre. Vous, une fois que vous êtes en haut, vous avez le droit de commencer à travailler. Il faut mettre en place les instruments de mesure. Effectuer des prélèvements. Combien d'heures vous passez sur ces glaciers ?
Ça dépend beaucoup du travail qu'on a à réaliser chaque fois sur les différents sites du glacier. Donc, pour installer une station météo, cette fois-là, ça nous avait pris un peu plus de 8 heures sur place, à 6400 mètres d'altitude.
Ouais. Alors, la station météo, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que mesurent vos instruments exactement ?
Ça mesure toutes les variables météo classiques, c'est-à-dire la température, l'humidité, la précipitation, la vitesse de vent, la direction, et puis le rayonnement solaire ou émis par l'atmosphère. Donc tout ça, c'est pour comprendre comment le glacier évolue en fonction du climat. On dit qu'il fond à cause de la température, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi parce que le rayonnement solaire, ou parce que l'humidité, ou parce que la nébulosité, les précipitations évoluent au cours du temps. Et c'est en ça qu'on essaye de mieux comprendre les choses, comment ce glacier, qui est un climatomètre, enregistre et intègre tous ces paramètres.
Ouais. Alors, vous y allez faire ces mesures sur place, mais pardon de vous poser cette question, mais est-ce qu'aujourd'hui, les satellites ne pourraient pas faire la même chose en se donnant moins de mal ? Est-ce qu'on peut pas effectuer ce genre de mesures depuis l'espace ?
Pour l'instant, c'est encore pas possible. Par contre, c'est totalement complémentaire. Et c'est ce qu'on réalise aussi. Hein, parce qu'on va pas mesurer ponctuellement un ou deux glaciers comme ça dans cette chaîne qui est immense. Oui. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des points de référence pour avoir une vérité sol par rapport à ce qu'on observe depuis les satellites. Et à partir de là, on extrapole sur des régions entières, voire sur l'ensemble de la chaîne.
Oui. Alors sur place, vous effectuez aussi des carottages. Et la magie de la radio, je vous téléporte sur le glacier du Pic Mera pour une petite démonstration de carottage, Patrick Vagnon.
Bon, ici, on est dans la zone d'accumulation du glacier. C'est-à-dire en fait la zone haute, on est à 5820 mètres d'altitude. Et c'est l'endroit où le glacier se régénère, il accumule de la neige. Et on veut savoir combien il en accumule chaque année en divers sites du glacier. Voilà, donc là j'ai une carotte. Ce qu'on appelle une carotte, c'est juste un cylindre de neige. Et j'ai juste à couper des cylindres parfaits et les peser. Et comme ça j'aurai la densité.
27, 24,5, 868.
Donc on voit bien que au fur et à mesure que la neige s'enfonce, elle se tasse et progressivement, elle va finalement, à partir de 20 mètres de profondeur, se transformer en glace. Et c'est ce qui donne la glace du glacier qui ensuite va s'écouler le long de la pente jusqu'en bas, quoi.
Une scène assez étonnante, hein, Patrick Vagnon, au milieu de cette montagne, sur ce glacier, avec votre petite balance, une balance de précision, vous pesez minutieusement des portions de carottes de glace. Ça demande énormément de concentration, de précision, et vous êtes dans une atmosphère où manque de l'oxygène. C'est plus difficile de se concentrer dans ces conditions.
Oui, oui, c'est forcément un petit peu plus difficile de se concentrer dans ces conditions, surtout quand il y a une équipe de télé à côté. Mais en fait, c'est quand même beaucoup des mesures qui sont assez basiques et qui sont faciles à réaliser. Donc on en fait beaucoup sur l'ensemble du glacier, à la fois des trous pour mesurer l'épaisseur de neige, ce qu'on entendait dans l'enregistrement, ou alors on plante des balises et on mesure juste l'émergence de bâtons qui sortent de la neige, donc c'est pas très compliqué.
Oui, ça demande quand même de forer, plutôt à la main pour ces carottes. Comment vous forez le glacier ?
Oui, on fore à la main avec des appareils qui sont dédiés à cela. C'est des grands tubes avec une vis et puis au bout, une espèce de couteau, de trépan qui permet de forer dans la neige et dans la glace ensuite.
Jusqu'à quelle profondeur ?
On traverse la couche annuelle, donc en général, on a de la chance sur le Merapic ou en Himalaya. Il n'y a pas une énorme quantité de neige accumulée pendant l'année. C'est à peu près entre 2 et 5 mètres environ.
Et vous risquez pas d'abîmer le glacier en faisant tous ces trous ?
Ça va, il se régénère quand même. Il n'a pas trop peur de nous encore.
Vous n'allez pas le faire fondre. Alors, on a l'impression que vous êtes loin de tout, hein, à des altitudes où l'oxygène se raréfie, mais où l'air est pur et où la pollution des hommes n'a pas d'impact. En fait, ce n'est pas si préservé, comme l'explique un autre glaciologue qui vous accompagnait, Patrick Ginot.
On est dans un environnement qui nous semble super propre, mais en fait, on a des concentrations de poussière qui sont très élevées et surtout des concentrations de suie, de black carbon, comme on dit, qui se dépose juste avant la mousson et qui aurait un impact sur la fonte du glacier. Les masses d'air remontent le bassin indien et remontent les vallées himalayennes et on a des concentrations qui sont largement supérieures à ce qu'on peut mesurer au centre de Grenoble pendant un pic de pollution, par exemple.
Patrick Vagnon, ça paraît incroyable. Ces glaciers de haute altitude sont plus pollués que la ville de Grenoble.
Alors, faut nuancer, puisque c'est quand même seulement une partie de l'année, c'est à la fin de l'hiver, quand à la fin de la saison sèche, où les masses d'air ont vraiment eu le temps de voyager depuis la plaine indo-gangétique, où il y a énormément d'industrialisation et de transport, jusqu'aux hautes montagnes. Mais dès que la mousson arrive, les précipitations lessivent tout ça, et à ce moment-là, l'environnement redevient extrêmement propre. Mais c'est vrai que symboliquement, c'est quand même les plus hauts sommets du monde. On imagine que ce sont les sommets les plus purs, et pourtant, c'est plus vrai. Et c'est lié à l'activité humaine.
Alors, il y a aussi l'activité humaine, ce fameux changement climatique, ce réchauffement, les glaces fondent. Alors, concernant les glaciers de l'Himalaya, il y a eu une alerte un peu injustifiée. C'était il y a une dizaine d'années dans un rapport du GIEC en 2007 qui annonçait la fin des glaciers himalayens pour 2035. Alors, aujourd'hui, on rassure tout le monde, ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette fausse information est partie, pourtant émanant du GIEC, qui est pourtant très très sérieux dans ses conclusions habituellement ?
C'est parti d'une publication qui était ce qu'on appelle la publication grise. C'est-à-dire que c'est pas une publication qui a été analysée, revue par des scientifiques. Et c'était un document qui était basé sur quasiment aucune donnée et qui envisageait une disparition d'ici 2350. Et quand il y a eu le document final, ces 2350 se sont transformés en 2035. Ouais. Alors déjà, 2350, c'était une supposition complètement non scientifique. Ouais. Mais 2035, ça a réellement fait polémique et ça a donné du grain à moudre à tous les climato-sceptiques.
Ouais. C'était une faute de frappe, donc hein, ce 2035.
On peut dire ça comme ça.
Ouais. Vous étiez déjà à ce moment-là sur les glaciers himalayens. Ça fait un moment que vous les étudiez. Alors, dans quel sens vont vos conclusions ? C'est-à-dire, ils sont là encore pour longtemps ? Est-ce que le changement climatique les affecte particulièrement ?
Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur l'ensemble de la chaîne, les glaciers perdent du volume et de la masse, mais beaucoup moins vite que la moyenne sur l'ensemble du globe, de tous les glaciers de montagne, et beaucoup moins vite que dans les Alpes, par exemple. Sur les 20 dernières années, dans les Alpes, on perd à peu près 1 mètre d'eau par an sur les glaciers, répartis sur l'ensemble de leur surface. En Himalaya, c'est à peu près 3 fois moins. Donc, ils perdent de la masse, mais moins vite. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une répartition spatiale qui est très contrastée. C'est-à-dire que la partie nord-ouest, vers le Karakoram, vers le Pakistan, les glaciers sont stables, voire gagnent un petit peu de masse dans le Kunlun. Et c'est le seul endroit sur Terre où les glaciers sont stables. Et dans la partie sud-est de la chaîne, donc vers le Bhoutan, vers le Népal, là, les glaciers perdent de la masse et à peu près 2 fois moins vite que les glaciers alpins.
Comment ça s'explique qu'ils soient relativement préservés ? C'est l'altitude, c'est le climat ? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'en sortent mieux que les glaciers alpins ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça et c'est, on essaie de répondre d'une façon plus précise à ce genre de questions puisque c'est forcément la question qui vient à l'esprit.
Ouais.
On sait qu'ils sont situés très haut en altitude pour beaucoup. Donc, du coup, ils sont moins sensibles à une élévation de la température qui existe puisque ça, c'est mesuré. Donc, quand il y a un bassin d'accumulation qui est plus, à plus de 6500 mètres ou plus de 7000 mètres d'altitude, ben, même s'il fait plus chaud, il neigera toujours. Donc, les glaciers se régénèrent. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'aussi, il y a des grands glaciers dans ces régions-là qui sont couverts de débris, comme les... il y a beaucoup d'érosion thermoclastique, donc il y a des débris qui tombent, des cailloux qui tombent et qui viennent couvrir les glaciers, on appelle ça des glaciers couverts ou des glaciers noirs, et ça, ça protège de la fonte aussi.
Ah oui.
Et puis aussi, le changement climatique, donc c'est une augmentation de température, mais c'est aussi des augmentations, des variations des autres variables météo. Et notamment, il y a certaines régions qui enregistrent des augmentations de précipitations qui viennent en partie contrebalancer cette augmentation de température.
Mmh.
Donc pour l'instant, c'est vraiment, je dirais, une question scientifique qui est à l'ordre du jour et qu'on doit résoudre.
En tout cas, les glaciers de l'Himalaya sont encore là pour plusieurs siècles. On peut l'annoncer comme ça aujourd'hui ?
Eh ben, je serais un petit peu moins optimiste que ça, parce que c'était un peu ma conclusion il y a 4-5 ans. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation de vitesse de cette perte de volume.
Mmh.
Donc, sur certaines régions de la chaîne, notamment la partie sud-est.
Alors, il faudra, Patrick Vagnon, que vous et d'autres glaciologues poursuiviez donc ce travail que vous avez entrepris, avec les risques que cela comporte. Hein, parce qu'en Himalaya, au risque lié à la haute montagne, s'ajoute celui des séismes. Vous étiez justement en expédition lors du séisme qui a secoué la région du Népal en 2015. Vous allez nous raconter dans la suite de ce temps d'un bivouac comment vous avez vécu ce tremblement de terre en pleine montagne.
Slow, whoa.
Crystallized. C'était The XX.
C'est un séisme de 7,9 degrés sur l'échelle de Richter qui a frappé ce matin à 80 km au sud de Katmandou, au Népal. La tour historique de Dharhara, au cœur de la capitale népalaise, s'est effondrée. Le gouvernement annonce d'ores et déjà 450 morts recensés dans le pays, dont plusieurs dizaines à Katmandou même, mais on est au début de l'évaluation, d'autant que des alpinistes ont subi le séisme dans l'Himalaya, notamment sur l'Everest, où à cause de la neige, les hélicoptères ne peuvent pas décoller.
25 avril 2015, la terre tremble au Népal et le séisme est à la une des journaux de France Inter et d'ailleurs. Le Népal, ce pays que vous connaissez très bien, Patrick Vagnon, vous vous y êtes même installé pendant 4 ans avec votre famille pour vous rapprocher de ces montagnes et de ces glaciers que vous étudiez. Et au moment de ce séisme en 2015, votre famille était à Katmandou, au Népal, et vous, vous étiez dans les montagnes. Où étiez-vous exactement ?
J'étais à peu près à 10 km à vol d'oiseau du camp de base de l'Everest sur un glacier qu'on suit aussi qui s'appelle le Shangri-Nup.
À ce moment-là, je crois que vous étiez encordé en train de passer au-dessus d'un lac de montagne. Comment vous avez vécu ce séisme ?
Eh ben, ça a commencé à bouger, donc je me suis retourné vers mon collègue et on n'était pas très certain de la solidité de la glace. Donc sur le moment, on a vraiment cru qu'on avait poussé le bouchon trop loin et que la glace était en train de rompre. Et quand on a un événement comme ça, on suit nos réflexes et il y avait une île qui n'était pas très loin. On a couru vers l'île et on s'est réfugié sur l'île.
Vous étiez préparé à un événement de ce type ? Vous vous étiez dit, voilà, on est dans une zone sismique et ça peut potentiellement se produire lorsqu'on est sur le terrain en expédition scientifique ?
Alors, je dirais qu'on était avertis puisque c'était la menace principale en allant s'installer à Katmandou puisqu'on attendait un séisme important. Il y avait un temps de retour de 70 ans, 75 ans et le dernier avait eu lieu en 1934. Mais on n'est jamais vraiment préparé à ce genre de choses, et surtout quand on est en train de travailler sur le terrain. Donc ensuite, on fait au plus intelligent et on suit notre bon sens. Ouais. Donc on s'est réfugié sur cette île sans savoir que c'était un séisme. On pensait vraiment qu'on était en train de fracturer le lac. Et puis à ce moment-là, il y a des avalanches qui sont tombées sur la montagne qui était juste en face de nous. Donc à ce moment-là, on a réalisé que c'était un séisme. En fait, mon collègue avec lequel j'étais, Guillaume, m'a dit « Mais c'est un séisme, c'est pas possible. » Et ça faisait déjà 2-3 minutes que ça avait terminé. Et effectivement, on dit « Bah oui, t'as raison. »
Et donc les avalanches se sont produites à des endroits où vous étiez passé peu de temps avant ?
Elles étaient un petit peu loin, éloignées. Donc sur le moment, on a eu peur quand même parce qu'elles sont venues vers nous sur le lac. Donc on a eu peur que ça casse à nouveau la surface du lac. On s'est caché derrière des cailloux. Et puis avec les oscillations, le lac s'est mis à vibrer. Et puis il s'est complètement disloqué sur une surface qui était relativement peu importante par rapport à la surface totale du lac. Mais c'était assez impressionnant. Puis à ce moment-là, on a entendu des grondements avec un aérosol qui est venu depuis le Nupsé, qui est un des grands sommets à côté de l'Everest. Et le nuage avait perdu beaucoup de sa vivacité, donc il est arrivé sur nous, on a été envahi de particules de glace. Il faut voir qu'il ne faisait pas beau à ce moment-là, il neigeotait, il n'y avait aucune visibilité, on voyait au maxi d'une façon assez laiteuse, jusqu'à 500 mètres, pas plus. Donc on a tout subi au dernier moment, mais il n'y a rien eu de vraiment violent qui est arrivé sur nous. Quoi.
On a l'impression, en tout cas, tel que vous le racontez de façon très factuelle, que vous n'avez pas perdu votre sang-froid, c'est-à-dire qu'à tout moment vous vous êtes dit « on peut gérer cette situation ».
Je dirais pas ça. Enfin, on fait au mieux pour ce qui nous semble le plus logique et qui fait le face le mieux possible à la situation. Ouais. Donc oui, on n'a pas perdu notre sang-froid, que ce soit mon collègue ou moi-même.
Ouais. Et à partir de quand on se dit « ça s'est calmé, on reprend la route et on va se mettre à l'abri ». D'ailleurs, où aller pour se mettre à l'abri dans de telles situations ?
On se retrouvait sur une île avec le lac qui était en partie disloqué autour de nous. Donc Guillaume m'a dit on va traverser, on va rejoindre la berge et puis ensuite on marche plus sur le lac. Et puis en fait, je me suis dit le plus rapide, c'est quand même de continuer à traverser le lac jusqu'au bout. On a continué à être encordés pour rejoindre cette pyramide, cette base scientifique au plus vite et avoir des informations. Ouais. En fait, j'étais prévenu, moi, de l'imminence d'un tremblement de terre. Donc j'étais à ce moment-là inquiet pour ma famille, pour tous les amis au Népal. Et je voulais savoir l'ampleur du séisme. Et j'espérais que ça soit pas proche de Katmandou.
Or, Katmandou a été touché. Vous avez pu appeler votre famille. Heureusement, ils étaient sains et saufs à Katmandou dès que vous avez eu le contact avec eux.
Oui. Après, rapidement, on a pu avoir des contacts. C'est-à-dire que les communications ont continué à fonctionner. C'est arrivé à midi. J'ai eu des contacts avec ma famille vers 23 heures le jour même. Mais j'ai eu indirectement des informations comme quoi tout le monde allait bien.
Et quels souvenirs gardez-vous des jours qui ont suivi après à Katmandou ? Parce qu'en plus, il y a eu plusieurs répliques assez sérieuses de ce séisme. Donc, l'ambiance devait être particulière.
Oui, bah après j'ai mis une semaine pour rentrer à Katmandou, parce que c'était quand même très très désorganisé. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a subi beaucoup de répliques. En un an, on a subi environ 500 répliques. Donc il y a régulièrement, après la période de mai-juin, on avait une dizaine de tremblements de terre par jour. Donc c'était finalement le sujet de préoccupation de tout le monde, systématique, permanent. Donc au bout d'un moment, c'était assez usant psychologiquement. Ouais. Et puis en même temps, on était en contact avec la population qui a extrêmement souffert.
Ouais. Alors est-ce que vos compétences de scientifique vous ont permis d'aider à ce moment-là et de quelle manière ?
Alors à l'époque, je travaillais dans un organisme qui s'appelle ICIMOD, qui est basé à Katmandou, qui est un organisme international qui travaille sur tous les pays de l'Himalaya et sur les conséquences du réchauffement climatique en montagne, que ce soit l'hydrologie, la glaciologie, mais aussi tout ce qui est écosystème, migration des populations. Et on a été mis à contribution pour analyser les images satellites qui nous ont été données gracieusement par toutes les agences spatiales du monde entier, pour analyser les images et regarder s'il y avait des risques de suraccident. C'est-à-dire que quand il y a un séisme, il peut y avoir des glissements de terrain qui viennent barrer des vallées. Donc, du coup, les rivières sont barrées. Ça forme des barrages naturels qui risquent de céder à tout moment. Et donc, on a été mis à contribution pour aider à prévenir ce genre de catastrophe. Et grâce à notre travail, on a pu envoyer des alertes. Et il y a des zones qui ont été évacuées. Et il y a des catastrophes qui se sont produites, mais sans victimes. Mmh. Donc, c'était du coup relativement valorisant. Parce que quand on se retrouve dans une situation comme ça, on a envie d'aider de toute façon. Donc, à la fois mes compétences de scientifique, puis ensuite, avec ma famille, on a participé à des opérations humanitaires d'aide.
Est-ce que cette expérience a changé votre rapport à la montagne et plus particulièrement à l'Himalaya ? Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit maintenant quand vous partez en expédition sur l'un de ces glaciers ?
Je dirais que ça arrive peu, ce genre de séisme. Donc, au final, quand on est en expédition, comme au Dolagiri, par exemple, parce que le Dolagiri, c'était 6 mois après le tremblement de terre, ben, on n'y pense pas trop. Donc, vaut mieux pas.
Alors, selon des théories, certains animaux sont capables de percevoir des signes avant-coureurs des séismes. Parmi ces animaux, il y a les grenouilles. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me permet de faire une transition pour donner la parole à Hugo Struna, que je vous présente. Bonjour Hugo.
Bonjour Daniel.
Alors, comme toutes les semaines, vous nous plongez dans la nature sonore qu'étudient les scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des grenouilles et des crapauds.
Alors je vous présente là le crapaud accoucheur en pleine démonstration vocale. C'est un tout petit crapaud dodu, beige ou brun de moins de 5 cm. Anne-Marie Holler, herpétologue, spécialiste notamment des amphibiens, m'a confié cet enregistrement réalisé tout près d'une ferme dans le centre de la France.
Alors on l'écoute un peu ce crapaud accoucheur.
Oui, c'est un petit chant tout flûté à deux notes qui devrait évoquer des souvenirs à nos auditeurs et en particulier ceux qui habitent en campagne car c'est là qu'on le retrouve un peu partout en Europe de l'Ouest.
Ces chants sont connus des agriculteurs, par exemple.
Oui, il fait tellement partie du paysage sonore nocturne, car il chante surtout la nuit, comme beaucoup d'amphibiens, que lorsqu'Anne-Marie Holler a demandé aux fermiers ce que leur évoquaient ces sons, certains lui répondaient « c'est le bruit de la nuit », sans savoir d'où ça venait. Mais bon, à leur décharge, le crapaud accoucheur est très très compliqué à dénicher, car il se cache le plus souvent dans les murets et sous les pierres. Il ne sort que très rarement, seul le trahit, ce petit chant joli.
Ah, certaines ont l'air en pleine forme, on change d'ambiance là. C'est toujours un crapaud ou c'est une grenouille qu'on entend là ?
Alors ce sifflement très métallique ne nous fait pas du tout penser aux grenouilles de chez nous, c'est différent.
Non.
C'est tout à fait normal parce que là on est au Mozambique en pleine savane, aux abords d'une petite mare à côté d'une rivière. Anne-Marie Holler a capturé ce chant au cours d'une mission visant à étudier la faune encore très mal connue de ce pays tropical au sud-est de l'Afrique. Alors il y a une hypothèse chez les scientifiques, il se pourrait que ces batraciens qui bondissent à travers les herbes hautes des savanes cherchent à imiter les grillons, pour mieux les dévorer car elles en raffolent. Mais ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse.
Alors à quoi servent tous ces coassements d'une manière générale ?
Alors déjà, sachez qu'il n'y a quasiment que les mâles qui chantent. Je dis quasiment car les chercheurs pensent que les femelles émettent également des sons. Mais on connaît encore presque rien d'elles, les demoiselles grenouilles étant d'une extrême discrétion. Le mâle s'égosille donc pour attirer la femelle, comme le faisait tout à l'heure le crapaud accoucheur, mais également pour prévenir d'un danger ou interagir avec ses congénères.
Et c'est vrai que la diversité de tous ces chants est vraiment impressionnante. Hein.
Oui, il y a à peu près un chant par espèce. Mais sachez que la musique varie aussi selon la taille du mâle et même de la température de l'eau et celle de l'air. C'est pour ça que l'acoustique des amphibiens est très complexe. Il faut prendre tout cela en compte. Deux sons différents ne correspondent pas obligatoirement à deux espèces distinctes.
Alors là, on est toujours avec des grenouilles et des crapauds. Là,
alors, ceci n'est pas une vache, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce beuglement provient d'une petite grenouille thaïlandaise, Kalula pulchra, rencontrée dans une arrière-cour à Bangkok. En réalité, le son est très puissant, c'est assez impressionnant dans la réalité, alors que la grenouille, elle, est toute petite. C'est d'ailleurs très rigolo. Lorsqu'elle se gonfle pour se remplir d'air, elle ressemble à deux énormes airbags flottants. Malheureusement, il arrive à cette petite grenouille aux yeux ronds de finir dans les assiettes en Asie. Un peu gluant, selon Anne-Marie Euler, mais appétissant.
Donc en Asie, les grenouilles sont très appréciées. Il n'y a donc pas qu'en France qu'on mange des grenouilles.
Non, les grenouilles ont toujours été mangées et chassées. À ce propos, Anne-Marie Euler m'a rapporté qu'un jour, dans un petit village du Laos, alors qu'elle montrait des grenouilles à quelques habitants, ces derniers les nommaient avec d'étranges onomatopées, zu par exemple. Les Laotiens leur avaient en fait attribué des noms qui imitaient leurs chants. C'est très fréquent, hein, surtout chez les batraciens, d'avoir des noms vernaculaires associés à ce que l'on entend. Parmi les grenouilles bien connues des Laotiens, il y avait notamment celle-ci. Encore plus étrange.
Oui.
Alors celle qui toque à la porte là en ce moment, c'est la grenouille à moustache, car elle a une petite moustache blanche de chaque côté de la bouche. C'est très classe, vous pouvez aller voir sur internet. On pense qu'elle est en train d'entrechoquer là deux bâtons en bois, alors que non, elle chante bien sûr comme toutes les autres. On peut facilement entendre cette grenouille dans toute l'Asie du Sud-Est.
Merci Hugo pour ce petit aperçu de la variété des chants de grenouilles.
Et vous n'avez encore rien entendu, il y a 6000 espèces d'amphibiens, dit anour, ce que nous appelons nous abusivement grenouilles, rainettes et crapauds, groupe qui n'ont d'ailleurs plus grand-chose de scientifique. Et donc, autant voir plus de chants, de sifflements, de rythmes, tintamarres, symphonies, en groupe ou en solo. Il y en a pour tous les goûts musicaux. Pourquoi les étudier? C'est la question qu'on pourrait se poser. Les scientifiques du muséum, comme Anne-Marie Holler et son équipe, utilisent leurs oreilles pour faire des inventaires de la faune, des études de comportement. Régulièrement, de nouvelles espèces sont décrites. Et puis, écouter une grenouille est souvent le seul moyen de la repérer pour ensuite l'étudier de plus près. Mais attention, entendre la musique est une chose, trouver la chanteuse en est une toute autre. Essayez chez vous, vous verrez.
Merci Hugo et à la semaine prochaine. Patrick Vagnon, il y a des grenouilles ou des crapauds dans l'Himalaya?
En tout cas, s'il y en a, elles nous ont pas dit qu'il allait y avoir un tremblement de terre.
C'est quoi la bande-son emblématique de ces expéditions en haute montagne que vous menez? Le premier son qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ces expéditions?
Le premier son qui me vient à l'esprit, c'est le vent, puisque c'est le royaume du vent. Donc c'est toujours un danger permanent, puisqu'en haute altitude, on a parfois le jet stream, donc les grands flux qui touchent les montagnes, et ça rend les conditions de vie parfois très difficiles.
Allez, suite et fin de notre bivouac en haute altitude avec le glaciologue Patrick Vagnon. Nous allons voir dans un instant que vous êtes aussi un alpiniste prêt à aller très loin pour gravir des montagnes encore vierges.
Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire. Sans tes yeux verts, j'hiberne. Je sais rien faire de mieux. J'attends, j'attends que passe, passe le vent, la neige. J'attends que tout s'efface. J'attends le printemps. J'attends que cesse le cortège des nuits sans fin. J'attends que meure le sortilège de ta peau. J'attends l'heure des bourgeons nouveaux. Je veux qu'on change de décor, qu'on change. Parfois je dors. Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire. Sans tes yeux verts, j'hiberne. Je sais rien faire de mieux. Je veux qu'on roule, roule les feuilles mortes, les fêtes. Je veux que s'arrête la cohorte des foules. Je veux des jours longs sous le soleil, des cigarettes, des garçons roux, du houblon au reflet vermeil. Le fleuve qui coule, un point c'est tout. Je veux que plus rien ne soit pareil, plus rien. Je ne sais rien faire.
C'était Raphaël Lanader avec le titre « Laissez passer dans le temps d'un bivouac ».
Ça y est, vous avez touché l'Antarctique ! Et les Brésiliennes sont où, Kido ?
Ils sont là, regarde.
On est dans un endroit hallucinant, là, sur l'île Smith, là, au Mont Foster, ou un des satellites, on ne sait pas trop si c'est celui-là ou celui-là. Et quoi, il est 1h du matin là, et le jour se lève à l'est, c'est incroyable, alors qu'on l'a vu se coucher il n'y a pas longtemps.
Hein? 2h moins 20.
2h moins 20, ouais, donc. C'est un univers complètement incroyable, on voit pas la mer qui est en dessous, là, il y a une petite mer de nuages justement qui nous la cache, mais c'est le délire.
Nous arrivons donc en Antarctique sur l'île Smith qui appartient à l'archipel des îles Shetland du Sud. On vient d'entendre la voix de l'alpiniste Lionel Daudet qui s'émerveillait sur le paysage. Il était l'un de vos compagnons de cordée, Patrick Vagnon, lors de cette expédition menée en 2010. Vous vous étiez rendu donc sur cette île à bord du bateau d'Isabelle Autissier. Quel était le but de l'expédition et quels souvenirs vous en gardez ?
Alors, le but de l'expédition, c'était de partir d'Ushuaïa, donc de l'extrême sud de l'Amérique du Sud, et à la voile de rejoindre la péninsule antarctique et ensuite de réaliser des ascensions sur des sommets pas forcément vierges, mais essayer de faire des nouveaux itinéraires le long de la péninsule. Ensuite, de là rejoindre une île complètement au sud du Pacifique à la voile, l'île de Pierre Ier, et de Pierre Ier revenir sur le Cap Horn et rentrer. Donc c'était une émission, une expédition de un petit peu moins de 3 mois. Et j'en garde un souvenir émerveillé, une aventure humaine exceptionnelle.
Quel rapport vous avez-vous en tant qu'alpiniste, on l'a compris, amoureux des glaces, des glaciers, quel rapport vous avez avec la mer ?
Alors, la mer, surtout les mers froides, ça a beaucoup de points communs avec la montagne. C'est déjà un milieu qui est assez hostile, qui est attirant et qui reste toujours vierge. C'est-à-dire que même si l'homme passe, il laisse juste à peine une trace. Mmh. Et en mer, c'est encore plus vrai qu'en montagne, cette trace s'efface très vite.
Ouais. Et quelle ambiance il y avait à bord entre ces alpinistes dont vous étiez et puis les marins ? Il y avait Isabelle Autissier et d'autres, on imagine.
On était 6 sur le bateau d'Isabelle, donc 3 alpinistes et 3 marins. Ouais. Donc toujours un partage vraiment exceptionnel quand on était sur la mer, puisqu'on était par groupe de 2 pour faire l'écart, donc ouais. Un marin et un alpiniste. Donc les alpinistes ont beaucoup appris, ouais. Et puis beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitié, beaucoup d'émotions. En montagne, on n'a pas pu partager avec les marins, puisque les marins restaient forcément à bord du bateau pour le préserver. On ne pouvait pas laisser le bateau seul, sans surveillance. Et puis en alpinisme, il y a besoin d'un petit peu plus de technique qui ne peut pas être partagée comme ça aussi facilement que sur un bateau.
Et parce qu'en montagne, sur l'île Smith, vous avez ouvert des voies. Le bateau vous a permis d'accoster dans des endroits où on ne peut pas arriver autrement qu'en bateau. Vous avez donc ouvert des voies. Qu'est-ce que ça signifie pour un alpiniste, ouvrir une voie ?
Ouvrir une voie, c'est de réaliser un itinéraire pour la première fois. Donc c'est un petit peu prétentieux de dire ouvrir une voie. Finalement, c'est juste gravir une montagne par un itinéraire nouveau, pour rien, pour le plaisir.
Alors vous pratiquez un alpinisme de style alpin. Ça ressemble à un pléonasme, dit comme ça, mais pas tout à fait. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Doug Scott, alpiniste anglais, connu pour avoir réalisé la première ascension de la face sud-ouest de l'Everest, lui aussi adepte de ce style alpin.
Quand tu grimpes en style alpin, tu es engagé. Tu places ta vie entre les mains de Dieu. Tu évolues rapidement sur beaucoup de terrains variés. C'est vraiment excitant. Tout est dans l'engagement. Tu as tout quitté. Il n'y a pas de corde fixe. Tu es loin du sol. Et il ne reste plus que toi et ton coéquipier, ou à la rigueur une cordée de 3 ou 4 grimpant ensemble. On trouve une unité, l'équipe est soudée dans une bonne énergie, et en grimpant, tu trouves ton second souffle. C'est ainsi quoi que tu entreprennes.
Si tu t'investis corps et âme, si tu es vraiment engagé, tu trouves cette force surhumaine, cette énergie venue d'ailleurs, et j'aime ça. Le style alpin en Himalaya peut être plus sûr.
Patrick Vagnon, je crois que Doug Scott est un de vos inspirateurs. Il fait partie des pionniers de cet alpinisme léger.
Oui, tout à fait. Là, vous me faites vraiment plaisir en mettant cette interview de Doug Scott, puisque c'est effectivement ça a été une grande, grande source d'inspiration pour moi, et ça le reste toujours, puisque Doug est encore vivant, je l'ai rencontré. Et pour moi, c'est un modèle.
Ouais. Pourquoi ce style alpin? J'imagine, en entendant Doug Scott, on le comprend, mais pourquoi il a votre préférence? Cette façon de grimper léger, pour le dire simplement.
C'est grimper léger, c'est grimper sans corde fixe, c'est grimper en utilisant son expérience et en utilisant aussi toutes les astuces pour s'adapter au terrain. C'est pas la montagne qui s'adapte au grimpeur, c'est le grimpeur qui s'adapte à la montagne. Mm-hmm. C'est un petit peu ça l'idée. Et en même temps, le grimpeur laisse très peu de choses, donc peu d'impact au niveau environnemental et un engagement parfait, total. Donc savoir repousser ses limites, et c'est un jeu constant qui peut être un jeu permanent, qui peut être dangereux, mais où il faut savoir renoncer. Le sommet, finalement, n'est qu'un second but. Le but, c'est d'être en montagne, d'être en harmonie avec cette montagne-là, et si on n'arrive pas au sommet, ben c'est pas grave.
Ouais. Vous avez aussi ouvert des voies dans l'Himalaya, toujours avec ce style alpin, donc on le comprend, léger, mais peut-être un peu plus risqué parfois. Quel souvenir vous gardez de certaines de ces voies que vous avez ouvertes dans l'Himalaya?
Ouais, j'ai des souvenirs innombrables. Hein. Je suis allé sur des hauts sommets connus comme le Lhotse, comme le Makalu, mais je pense que ce qui m'a toujours le plus plu, c'était aller sur des sommets complètement inconnus, aux noms complètement bizarres, comme le Kempo Karpori dans le Langtang, des sommets complètement inconnus, ou le Chomolongso au Tibet. Ouais. C'est pas la renommée du sommet, c'est pas d'arriver au sommet qui m'intéresse le plus, c'est de trouver sa voie et j'ai des souvenirs fabuleux sur le Chomolongso au Tibet. Oui.
Alors c'est marrant parce que vous dites le Chomolongso, c'est des souvenirs fabuleux. Je crois que c'était en 2005, mais vous êtes aussi fait une sacrée frayeur sur cette montagne-là précisément.
Oui, bah, c'était une expédition nationale, donc on était plusieurs cordées. Et c'était une ascension qui a duré 8 jours aller-retour. Et le dernier jour a été une journée extrêmement longue où j'ai été épuisé et j'ai dû m'arrêter à 40 mètres du sommet. Donc ça a été un moment douloureux. Et c'était un moment aussi de doute, puisqu'on a dû redescendre dans des conditions vraiment difficiles de nuit pour rejoindre le dernier bivouac à 7100, où là j'ai eu une espèce de bronchite, crise d'asthme. Et effectivement, on n'était pas très loin de nos limites. Et grâce à mes compagnons de cordée, on a réussi à rentrer. Et je pense que j'ai su m'arrêter où il fallait. Mes compagnons sont allés jusqu'au sommet. Pas moi, mais c'était quand même une aventure humaine exceptionnelle.
Malgré les risques, vous ne concevez pas votre vie sans ces ascensions en montagne, qu'elles soient à but scientifique, comme on l'a vu dans la grande partie de cette émission, ou justement pour la pure exploration.
Oui, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce qui me fait vibrer, donc j'ai pas envie d'abandonner tout de suite. J'abandonnerai avec l'âge aussi, puisque c'est quand même des investissements au niveau sportif qui sont extrêmes, et à un moment ou à un autre, on est obligé de s'assagir ou s'arrêter.
Ouais. Prochaine expédition pour vous, vous partez du côté de la Norvège, puis du Groenland, encore avec Isabelle Autissier et d'autres alpinistes, c'est ça?
Bah c'est ça, avec Lionel Daudet à nouveau, donc on remet un petit peu l'équipe au goût du jour, on part de Tromsø au nord de la Norvège, à la voile, on s'arrête sur l'île de Jan Mayen pour faire du ski et ensuite on continue sur la côte est du Groenland où il y a des grands murs rocheux et qu'on va essayer d'explorer.
Eh bien, bon voyage à vous, soyez prudents, un grand merci à vous Patrick Vagnon d'avoir partagé ce bivouac avec nous.
Merci beaucoup.
Après le flash, nous vous proposons de partir bivouaquer en zone extraterrestre avec l'historien et essayiste Bruno Fulini. Il a publié aux éditions Artaud un étonnant atlas des zones extraterrestres dans lequel il répertorie des spots d'observation, des endroits où auraient eu lieu des rencontres du troisième type, des sites archéologiques qui témoigneraient du passage de civilisations intelligentes venues d'ailleurs. Avec lui, nous tenterons de comprendre comment, collectivement, en 70 ans, des hommes et des femmes ont inventé toute une nouvelle mythologie autour de mystérieux visiteurs venus d'ailleurs. Et je profite des quelques secondes qu'il me reste pour vous remercier des nombreux messages que vous nous laissez sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur notre page Facebook où vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Toute l'équipe vous lit avec beaucoup de plaisir et on vous répond quand on peut.